Radio Spirale.
En novembre 2011, Rodney Saint-Éloi s'entretenait avec quatre auteurs ayant publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Mackenzie Orcel, Gary Victor, Yara El-Gadban et Michel Soukar acceptaient de se prêter au jeu et nous offraient par la même occasion la lecture d'un extrait de leur dernier livre. Ces entretiens se déroulaient à la librairie Le Port de Tête.
Donc, je suis très très heureux d'être ici avec vous. On n'a pas l'habitude de recevoir, d'être en pleine interactivité avec la diversité, d'être en dialogue avec cette altérité assez importante pour nous à Mémoire d'Encrier. Donc, on est très heureux de cette grande présence devant un certain nombre d'auteurs. J'ai en face de moi, tout près là, j'ai Jean Morissette qui vient de Port-au-Prince, de Rio de Janeiro, qui m'a amené un cadeau de Salvador de Bahia, n'est-ce pas? Donc, je veux mon cadeau. Donc, et Jean Morissette qui a publié Haïti délibéré. Donc, il y a avec nous dans la salle beaucoup d'amis, Amance Lancteau, qui publie aussi chez Mémoire d'Encrier, qui dessine pour nous la collection Jeunesse. Il y a Virginie Turcotte, mon adjointe. Il y a Tiffaine qui travaille au bureau. Il y a tout le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train d'accueillir quatre personnes qui sont complètement différentes. Sinon, ces personnes-là partagent un univers, un même univers. Ces personnes-là sont dans un même combat. Ces personnes-là sont dans le combat, en fait, je dirais, du dialogue, sont dans le combat de l'acceptation, pas de la tolérance, mais de l'acceptation de l'autre dans une grande diversalité. Donc, j'aime bien dire à Mémoire d'Encrier qu'on est des gens qui viennent de toutes parts et c'est nos différences qui nous rassemblent. Aujourd'hui, on accueille Yara El et Gadban de la Palestine. Est-ce que j'ai bien dit, madame? Yara est auteur, Yara est de la Palestine, elle vit à Londres, puis elle est de Montréal quelque part. Donc, en fait, la question d'ici et d'ailleurs, ça n'existe plus parce qu'ils sont de partout et pratiquement de nulle part. Ils sont simplement des humains. Et il y a Gary Victor qui écrit tellement sur le vaudou, quand je le vois, je pense que souvent c'est un diable. Donc on a Gary Victor qui est là avec nous. On a le romancier, historien Michel Soukar qui nous fait le plaisir d'être ici avec nous. Et puis j'en profite de l'occasion pour saluer des amis comme Gilles Bibeau qui a pris la décision aujourd'hui de financer Mémoire d'Encrier. Donc et ce soir, on a Samuel Pierre qui vient, et puis donc on a de très très bonnes nouvelles, et puis j'espère que vous allez imiter Gilles Bibeau. Pour l'instant, on commence avec... je suis très très traditionnel certaines fois, je voulais commencer en disant le doigt d'aîné, on commence par les aînés, et le plus jeune m'a dit non, je suis le plus jeune, donc je dois avoir des privilèges. Donc c'est Mackenzie Orcel le plus jeune, donc il a protesté, il dit je veux être le premier. Donc on a avec nous Mackenzie Orcel. Mackenzie Orcel vient de Port-au-Prince. Mackenzie Orcel, c'est un ami, c'est un frère, c'est un fils. Il m'a fasciné, ce jeune homme que j'ai rencontré il y a quelques années à Port-au-Prince, qui a publié un livre à compte d'auteur, qui voulait me le vendre, qui voulait me le donner. J'ai dit non, je ne veux pas. Il était vexé, il était vraiment... Comment vous ne voulez... J'ai dit non, je veux l'acheter. Et j'avais acheté deux copies, une copie pour moi, une copie pour Maximilien Laroche. Et dans l'avion, j'ai lu ça, j'ai beaucoup aimé. Et puis après, on est en contact, on ne s'est jamais lâché. Mmh. Ça fait quatre livres de Mackenzie Orcel que je publie. Et Mackenzie, c'est vraiment un talent immense. C'est vraiment, à chaque fois que je lis Mackenzie, je me pose la question, comment un pays qui échoue collectivement peut-il produire des individualités qui sont extraordinaires? Et Mackenzie est d'origine populaire, parce que des fois, on le cache. Mackenzie ne connaît pas les universités qu'on connaît, il ne connaît pas les écoles qu'on connaît, il ne connaît pas la vie douce que l'on connaît. Mackenzie a toujours vécu dans ce qu'on appelle un bidonville, dans des zones limites. Et c'est ce qui a nourri son œuvre. Je parle de son dernier roman, Les Immortels, et je parle de Les Latrines. Donc Mackenzie nous parle des latrines. Et c'est vraiment difficile parce que je pense que quand on a annoncé le titre déjà à Port-au-Prince, il y avait beaucoup de problèmes avec le titre. On dit, mais si le livre n'est pas bon, Le titre d'ailleurs n'est pas bon. C'est les latrines. Et si le livre n'est pas bon, donc l'auteur là, c'est foutu. Donc, comment on peut appeler son livre les latrines?
Bon, les latrines, c'est mon enfance, c'est le quartier où je vis, c'est le monde, c'est aussi l'être, les latrines. C'est aussi toutes ces voix qui ont des choses à dire, qui veulent parler, qui parlent, qu'on empêche de parler. Et c'est aussi ma voix. Donc les latrines, c'est ça, les latrines pour moi. C'est pas les fausses désances, c'est pas non seulement ça, c'est autre chose, c'est plus que ça.
Mais ça a commencé par Antonin Artaud qui dit en exergue, il y a quelque chose dans l'être qui ressemble au caca. Mais je reviens à quelque chose de plus précieux qui se retrouve dans vos principaux livres, c'est le fantasme, en fait l'image pratiquement fantasmatique de la mère, la figure maternelle qui traverse. Et le livre est dédié à votre
mère.
Ah
oui, ma mère, c'est une voix très importante pour moi. Quand elle me parle, quand elle est là, quand elle me regarde, et elle me dit des choses. Malheureusement, elle ne sait pas lire, mais elle a tellement fait, et quand je la vois, j'ai envie d'écrire. Elle me pousse à écrire par tout ce qu'elle a fait, et par son courage, par son enthousiasme, et par sa foi en moi. Et je me rappelle une fois, elle m'a dit, « Mackenzie, tu sais quoi ?»« Et quoi, maman ?» Elle m'a dit, « Tu sais, c'est toi, mon livret bancaire. »
Ah ben là, tu parles à l'éditeur, hein.
C'est une femme extraordinaire. Mais les latrines, c'est ça me fait penser à en fait toutes ces voix qui parlent dans ce livre et cette femme qui est payée pour chasser le caca de la vieille, cet homme qui habite dans les bas-fonds de Port-au-Prince, qui vit dans ces quartiers et qui est payé lui aussi pour donner du plaisir à cette bourgeoise. Et cette fille qui est violée par son propre père, ce commandant qui fait la pluie et le beau temps, qui s'érige en chef, en seul Dieu debout. Alors, toutes ces voix, c'est des gens qui parlent et qui vraiment est... Qui s'inscrivent dans cette blessure qu'on est en train de connaître dans le monde. Et ça me fait penser à un personnage que je viens de rencontrer dans un roman. Ça s'appelle La pluie jaune de Julio Lamazares. Elle s'appelle Sabina, cette femme. Elle s'est pendue parce que c'est tout ce qu'elle avait à dire. Et ça me fait aussi penser à cet homme dans le roman de Hans Falada, Seul dans Berlin, qui posait des cartes postales à travers la ville, partout, dans tous les immeubles de la ville, pour dire non et à ce que faisait Hitler.
Ok, ça, c'est une petite question, Mackenzie. Comment vous dites que votre mère, elle est un alpha, elle ne sait pas lire. Et comment elle reçoit votre livre, j'imagine, je connais la chambre, je connais là où elle vit avec vous, la chambre. Quand vous dites, voici mon livre, comment quel est le regard sur son compte d'épargne, qui est nous, toi et moi, et quelle est cette relation?
Bon, elle est contente, et dans un pays comme Haïti, avoir un fils écrivain, c'est pas n'importe quoi. Elle est contente et quand j'écris, elle me regarde écrire et elle me dit « C'est bientôt prêt.
» Donc c'est bien, mais Mackenzie Orcel, écrire en fait, j'imagine qu'on ne peut pas mentir, Mackenzie n'a pas de métier, c'est la seule chose qu'il sait faire, c'est écrire. Il n'est pas mécanicien, il n'est pas ferblantier, il n'est même pas éditeur. Donc, il ne fait qu'écrire. Donc, ça veut dire quoi pour un Haïtien de classe populaire et qui décide d'être le compte d'épargne de sa mère simplement en écrivant, en faisant un pari de la dignité, parce qu'il y a aussi une démarche citoyenne, il y a l'affirmation d'une citoyenneté, puisqu'il n'y a pas tel diplôme, il n'y a absolument rien, il n'y a que l'écriture. Donc, deux petites questions avant que de passer à la lecture de Mackenzie Orcel. Comment toi, t'es venu à l'écriture? Parce que regarde les références qu'il nous donne, etc., à Berlin, les cartes postales, etc. Il passe son temps entre lire aussi, écrire aussi pour Mackenzie, c'est aussi lire. Et il lit, il est une espèce de rat qui lit tout. Tout ce qu'il trouve, il le lit. Donc comment t'es tombé là-dedans, dans lire et écrire?
Bon, moi, j'ai toujours eu des choses à dire. Et quand on a des choses à dire, il faut faire quelque chose. On est dans l'urgence. Quand on a des choses à dire, on est dans la main tendue, dans le partage. On est fou, quoi. Et moi, j'ai toujours été fou. Et il fallait les dire, ces choses. Quand on a grandi dans un quartier comme Port-au-Prince, où l'on tue, matraque, moi, j'ai tout vu. Quand on a vécu le tremblement de terre, quand on n'a jamais eu d'enfance, on a beaucoup de choses à dire.
Eh bien, on
Voilà.
va lire, on va écouter Mackenzie Orcel, on va voir s'il pourra fonder l'espoir de sa mère. On va voir.
Je ne sais pas lire, je vous préviens. Ici, quand un enfant n'a pas de père, ou bien il appelle père celui qui saute sa maman, qui garnit la table, qui a le plus gros plat, qui a le droit de péter sans s'excuser, qui lève la main sur sa femme quand ça lui chante, ou bien il se révolte contre lui, ce spécimen d'homme parachuté de nulle part, qui vient ronfler, régner un maître dans la maison, qui décide de tout, même du nombre de fois dans une journée qu'on doit aller aux latrines. Drôle de façon d'être père ou fils de quelqu'un, non? Dans mon cas, c'était différent, car non seulement personne n'était mon père, mais il n'y a jamais eu, à ma connaissance, quoi que ce soit entre un mâle et ma mère. Le ronflement d'aucun autre homme la nuit dans la case à part moi. Je ne vois aucune trace de personne dans les souvenirs de cette femme, dans ses gestes, même dans ses sautes d'humeur parfois, aussi volubiles et cinglantes qu'elles puissent être. Ici, le mot fuite est un mot inventé pour les pères. J'avoue que c'est débile de m'attarder à de telles histoires. Ça va de soi. Des histoires authentiques, ça n'existe pas. Il n'y a que des histoires sans cesse authentifiées. Chacun y met ses talents, ses chiens et ses plaies, ses espérances aussi. En plus, un père, c'est pas aussi important que ça. Mais dès que quelqu'un cite ce mot, je ne suis plus moi-même. Je ne peux m'empêcher de m'inventer des images. Imaginez comme il est le mien, comme il est mon père le mien, puisqu'il doit bien exister quelque part dans ce monde. Des tas d'ossements abandonnés sous 6 pieds de terre, ou un vivant qui traîne dans tous les bordels du monde, ou encore un qui se respecte, le cœur grand comme l'océan, se lève chaque matin d'un pied solaire pour aller pêcher des étoiles dans les grands fonds du quotidien. Imaginez ses cheveux, son corps, sa démarche, sa façon de parler, de mastiquer la nourriture sur la table, en face de sa femme qui le regarde avec des yeux fiers, des yeux qui lisent au-delà de son regard de père de famille. Ses nombreux coups d'épée dans l'eau, son acharnement pour avoir raison de la vie, sa façon de dire, viens par ici, fiston, viens t'asseoir sur les genoux de papa, viens faire un tour avec papa, fiston, ne pleure pas, fiston, papa est là. Qui rentre le soir à la maison, se nourrit avant d'aller jeter sur le lit son corps meurtri par le travail. Son fiston, moi, qui lui emboîte le pas jusqu'au fabuleux environnement du sommeil en caressant sa barbe grisonnante, comme tous les soirs. Sa femme entre dans la chambre et laisse s'échapper de ses lèvres un de ses sourires de femme comblée. Ma mère, elle doit nous trouver vraiment mignons, moi et papa. Puis elle nous couvre d'une de ses couvertures au motif de pigeon voyageur, en posant un doux baiser sur nos fronts, la poétique de la famille. Comment ne pas imaginer tout ça? Comment me résoudre enfin à tout oublier? Laisser couler à travers mes larmes toutes ces images, tout ce monde inconnu. Il faut que j'arrête. On n'a pas besoin d'un père pour être quelque chose. Point merde. On a besoin de rêves, surtout de rêves. Mais je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas. je ne peux me passer de tout ça, de toutes ces histoires que racontent les radoteurs de la place d'armes. La vérité, c'est tout ce que je veux, moi. Seule la vérité peut m'affranchir, me libérer des chaînes de mes privations, de mes questions. Avait-il réellement existé l'homme bambou, comme tant d'autres? Ma mère avait-elle cédé à ses fausses promesses en profitant de mes flâneries dans le voisinage ou de mes sommeils bien trop durs, bien trop profonds pour intimider deux êtres humains qui s'envoient en l'air? Ici, les mères, elles envoient leurs enfants jouer dans le voisinage ou acheter des trucs qu'elles savent tout bonnement qu'ils ne trouveront jamais pour pouvoir se débarrasser d'eux et s'envoyer librement en l'air avec les voisins. Entre-temps, on en profite pour courir, gambarder, faire le tour du quartier avec son vélo ou celui d'un ami, s'envoyer en l'air en jouant au papa-maman avec la fille de la voisine. J'ai aimé ce jeu. Ça me permettait de découvrir un peu combien la vie en couple pourrait être quelque chose d'intéressant si on savait comment s'y prendre. J'étais le papa, la fille de la voisine était la maman. Et on faisait tout ce qu'une maman et un papa font une fois dans leur lit. Nous, c'était toujours dans les latrines. La deuxième phrase. Alors c'était une phrase. C'était pas une jument facile à dompter, ma mère. Rebelle comme tout. J'en pince pour personne, moi. Pas comme ces pimbèches du quartier qui couchent pour un atome. Rien que parce qu'on leur dit qu'elles sont belles ou je ne sais quoi. Elle n'hésitait pas à dormir sur sa faim en espérant que demain serait autrement ou peut-être meilleur. Chaque jour vient avec son lot de petits moments d'éternité et de misère de toutes sortes. J'étais pas encore né, on m'a tout raconté. Dans ce quartier, les gens te refusent la nourriture, mais pas les commérages. Leurs inventions, ta mère petit, disait-il. C'était une femme très courageuse, une femme homme, une femme baobab qui pouvait manger le diable avec un grain de sel. Elle avait même une fois craché au visage d'un policier qui lui avait tapoté les fesses sans son consentement, juste pour montrer au monde le pouvoir que lui conférait son uniforme et le pistolet attaché à sa ceinture. Une femme qui s'est battue, elle, toute seule, contre trois autres femmes qui lui manquaient de respect, qui a marché toute sa vie pour te donner la vie, petit. Elle a tout fait, même ce qu'elle n'aurait pas dû. Moi, j'avais pas besoin qu'on me dise. Il me suffisait de regarder les yeux de ma mère pour comprendre. Personne n'avait vu les yeux de ma mère. Pourtant, c'est là que ça se passe. J'en avais pas besoin, moi. Tous ces éloges, ces blabla et tout, aussi convaincantes qu'elles pouvaient être, les promesses de cet homme, elles pourraient jamais arriver à la plier. Je ne sais pas. Quant aux autres, ça peut prendre du temps. Elles finissent toujours par céder, par ouvrir leurs jambes et tout. Le drame des hommes comme l'homme bambou, c'est qu'ils ignorent qu'avec les femmes comme ma mère, habitués à des relations taillées sur mesure, discutées, planifiées d'avance, faut pas trop se montrer à cela. Faut pas, même si ça chauffe, pète le pantalon, faut pas foncer. Sinon, on risque de se faire mettre dans le lot de ces petits voyous, ces profiteurs qui se donnent pour les plus futés dans l'art de prendre les autres pour des imbéciles, se croyant plus futés que tout, même la douleur, ou passer sa vie à se masturber sur le nom de la même gonzesse, sans jamais la voir en vrai. Faut y aller lentement, sûrement comme la tortue de la fontaine. C'est que de la province d'où elle vient, la règle ou la tradition, comme on dit, veut que la femme soumette les différents soupirants à une épreuve pour qu'elle sache avec qui faire la route et qui envoyer se faire écraser par un camion. Il est honteux d'être conquise au premier tir. Elle veut que le temps passe, révèle des choses inconnues, étonnantes, inattendues. Eux, je veux dire les hommes comme lui, ne voient tout ça que sous un seul angle. Les femmes, ils les mettent toutes dans le même sac et tout. Il suffit que telle technique marche pour celle-là et ils l'utilisent pour toutes les autres. Ils font des promesses qu'ils ne peuvent respecter ou qu'ils savent tout bonnement qu'ils ne peuvent respecter. Et dans ce jeu, ce sont les enfants les plus vulnérables, surtout ceux à qui on n'a jamais fait les promesses, qui n'ont jamais rien reçu de quiconque, qui ne savent pas ce que c'est les promesses, que selon la roue, c'est une assurance donnée, pas quelque chose d'acquis, gagné d'avance. Je suis désolé de le dire, avec moi ça aurait marché à coup sûr. Je le dis franchement, il m'aurait eu à coup sûr l'homme bambou, l'homme aux membres plus énormes qu'un pénis dans l'érection. S'il m'avait promis, par exemple, une Nintendo pour mon anniversaire, j'aurais été heureux, j'aurais sauté à son cou, et ma mère aurait été contente de me voir content, pour une fois retrouver le sourire. Elle aurait vu en lui l'image de ce père absent. Quelle mère dans ce quartier pourri ne serait pas heureuse de trouver un père, un vrai pour son caca sans savon? Elle l'aurait vu autrement, cet homme, je veux dire avec d'autres yeux. Elle aurait oublié qu'il était un voyou, un menteur, un qui fait des promesses à toutes les femmes du quartier dans le but de les baiser, de les faire chialer comme une chienne. Elle l'aurait laissé la prendre dans tous les sens, juste pour moi, pour qu'elle continue à voir encore sur mes lèvres ce sourire inhabituel que lui seul pouvait nourrir, rien qu'en réitérant sa promesse de me donner une Nintendo pour mon anniversaire. On dit que la femme aime tombe tôt ou tard au pied de l'homme qui aime son enfant, qui lui procure même hypocritement un peu de bonheur. Toute mon enfance, j'ai rêvé d'avoir une Nintendo. Je me rappelle, on n'avait pas de télé chez nous. Quand les autres gamins étaient chez eux à regarder un film intéressant, Superman par exemple, moi j'étais chez moi à tourner dans tous les sens, à me dégoûter. Je t'interdis d'aller regarder la télé chez le voisin, me disait ma mère. Je ne pouvais pas m'empêcher de lier dans ma tête les sons et les scènes. Quand une voix en danger appelle Superman, alors je sais tout de suite qu'il va se mettre à fendre l'air pour lui venir en aide. La responsabilité du héros par rapport au monde s'est accrue chaque minute. Un train piégé par-ci, un enfant tombé du haut d'une chute d'eau par-là. Mais elle a trouvé son accomplissement dans cette partie où il faisait le tour de la terre en volant pour réparer les dommages qu'elle avait subis suite à un terrible tremblement de terre. Héloïse, sa dulcinée, bon Dieu de mer, je n'ai jamais vu une femme aussi magnifique. Il n'y a rien de plus chiant quand tu n'as pas de télé chez toi et que tu entends chez le voisin les sons d'un film que tu aimes et que tu es obligé de rester planté là parce que ta mère t'interdit d'aller chez le voisin. Soit parce qu'elle a appris que ce dernier t'a foutu un coup de pied dans le cul la dernière fois ou parce qu'elle ne voudrait pas qu'il t'arrive un truc pareil. Il n'y a pas que la télé. Il nous manquait beaucoup de choses. Je sais que ça ne vaut rien sans la télé, une Nintendo. Que c'est juste un objet comme ça quelque part dans la maison. Au moins, il aurait pu me le promettre pour que les autres le sachent. Pour que je leur dise que j'allais avoir une Nintendo pour mon anniversaire, une vraie. Ils auraient sans doute trouvé ça génial. Et au moment venu, ils auraient apporté volontiers leur télé. On aurait joué à Super Mario ensemble toute la journée. C'était mon héros préféré, Mario. Je me souviens encore de ce gars incroyable qui finissait toutes les parties en tournant le dos à l'écran. Ce serait génial pour une fois de voir tous les amis se réunir chez moi, dans ma case penchée, où personne n'est jamais venu jusqu'à présent, pour le regarder faire et refaire autant qu'on le souhaite. Une Nintendo à un enfant qui n'a jamais eu quoi que ce soit. Sinon, un vieux jouet d'un inconnu qui prétendait être son père. C'était pas trop demandé. C'était quand même pas la mer à boire. Ça aurait été plus sympa, plus classe, au lieu d'aller tout droit au but, comme une espèce de je ne sais quel roi du monde, avec des promesses pour seul et unique appât, pour attirer dans son filet une femme aussi intrépide que ma mère, pour une partie de jambe en l'air non déclarée. Cette femme trop métallique, trop endurcie pour être une femme, elle l'aurait rageusement envoyée paître avec ses paroles en l'air, non pas parce qu'elle avait déjà tout ce que cet homme lui aurait promis, au contraire, mais parce qu'elle savait où il voulait en venir, ce fils de pute. Les bons à rien dans son genre, elle les connaît. Ils font de belles promesses pour avoir ce dont ils ont besoin et foutre le camp après. Demain, il lui est raconté à ses compagnons de bouteille sur la place d'armes comment il l'avait fait sauter, celle-là, fait gémir, chialer, comme une chienne.
Monsieur Gary Victor. Merci Mackenzie Orcel, merci beaucoup. En fait, vous connaissez assurément Gary Victor, qui est journaliste, écrivain, scénariste, qui est, en fait, je pense que chaman, vaudou, isan, etc., qui écrit depuis, en fait, il faut remonter à l'histoire de Gary, à l'histoire de son père, qui est sociologue, un sociologue très important en Haïti, qui a beaucoup, je pense, marqué et l'imaginaire de Gary Victor. Gary Victor, c'est cet écrivain, on dit, c'est l'écrivain le plus lu en Haïti, parce qu'en fait, l'œuvre de Gary plonge vraiment pas dans les bas-fonds de Port-au-Prince, comme pour Mackenzie Orcel, mais plutôt dans l'imaginaire collectif haïtien. Et c'est important de, je vais vous raconter une histoire, que, en fait, que Michel Soukar, qui est là, qui va passer en dernier, pas pour le droit d'aînesse, il va passer en dernier. Michel Soukar m'a dit, Voilà telle histoire. J'ai vu je dois raconter cette histoire à Gary parce que j'ai vu un type en Haïti qui est dans une rue de Port-au-Prince et puis il était un peu triste. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je suis malade. Et puis Michel Soukar qui dit de manière très rationnelle, est-ce que vous avez vu un médecin? Et le type dit, oh non, ça va être traité dans mon rêve. Et puis il dit, mais comment dans votre rêve? Et puis le type de répondre, hier soir, il était venu pour me faire une piqûre dans le rêve. Michel dit, il était venu vous faire une piqûre. Il dit, oui, il était venu me faire une piqûre dans le rêve. Mais il y avait un chien qui jappait. Donc il est parti. Mais je pense qu'il va revenir. Donc vous voyez donc. Et Michel me dit, mais ce qui est drôle, si j'écris ça, tout le monde va croire que c'est de la fiction. Et pourtant, c'est effectivement vrai. C'est un itinéraire de vie. C'est comme ça les gens vivent. Donc il y a le rêve et la réalité, et ça ne fait qu'un seul. Et je pense que c'est ce que Gary fait dans, et c'est un petit peu ce que Gary fait dans son. Et Michel qui me disait, je dois raconter cette histoire à Gary, peut-être qu'il en fera quelque chose. Donc, et si vous avez des histoires comme ça, Gary est là, il va les recueillir, donc il va sûrement vous donner des droits d'auteur. Donc, je suis très très content d'accueillir Gary Victor ici, qui est très connu ici, qui a été il y a 2 ans, je pense, invité d'honneur au Salon du Livre de Montréal, qui a publié chez nous son 5e titre, et Soro, et qui est une histoire assez intéressante, puisque c'est toujours une histoire de d'hommes et de femmes comme. Le sont, comme elles le sont souvent, toutes ces histoires-là. C'est après le séisme, il y a l'inspecteur, Dieu soit loué. Si vous connaissez l'œuvre de Gary, c'est un inspecteur qui retourne souvent dans cette œuvre-là. Et l'inspecteur qui était dans une chambre d'hôtel avec une femme. Et voilà que en plein séisme, et ils étaient en pleine action aussi. Et voilà, la femme est morte et l'inspecteur est vivant. Et c'est qui la femme? Et c'est la femme du commissaire. C'est la femme de son patron. Et lui, il a pour tâche de trouver le coupable, c'est-à-dire l'amant. Vous voyez, donc c'est 6 ans de saut dans le vaudou, etc. Vous voyez, toutes les filles rient. Hein. Un problème, hein. Les hommes ne rient pas et toutes les filles se mettent à rire. Donc c'est ça, Soro. Donc Gary, il écrit extraordinairement bien des histoires qui nous touchent profondément. Gary, j'aimerais bien que tu commences par dire. C'est quoi cet imaginaire? C'est qu'il y a un livre, Gary parle de les rues
À l'angle des rues
à l'angle des rues parallèles. Et c'est drôle parce que les Haïtiens pensent que c'est normal. Donc, à l'angle des rues parallèles. Donc, c'est quoi cet imaginaire-là, Gary? Comment, en fait, le l'irréel et le réel, comment ça se croise? Comment toi, tu vis ça?
Bon, il faut dire que ma rencontre avec cet imaginaire. C'est en fait le choc que j'ai eu. J'avais peut-être 19 ans, 20 ans. J'ai vécu dans une famille de classe moyenne assez aisée, enfance très protégée. Je ne connaissais que Port-au-Prince. Je connaissais tous les mythes d'Haïti. Ouais, j'étais quand même comme dans une sorte de bulle, un petit peu. Et je suis en deuxième année d'agronomie et pour la première fois, je vais passer 2 semaines à la campagne. Et je vis je vis 2 semaines chez un paysan totalement pauvre, perdu en pleine montagne. Et brusquement, je me rends compte que tout ce que j'avais connu était faux, était factice. Je me retrouve dans un autre lieu. Et je me rends compte que tout ce qu'on m'a raconté au niveau d'histoire, la première République noire indépendante, tout et tout, je remarque que tout ce qu'on m'a raconté est faux. Je me trouve dans un autre pays, complètement différent. Et pour moi, c'est le grand choc. Et c'est là que je me rends compte que c'est comme si je vivais dans un imaginaire, quelque chose de fou, de faux, de factice. Et depuis lors, je suis parti comme. C'était comme un moyen pour moi de me sortir de cette petite bulle et d'essayer de répondre à toutes ces questions que ce séjour chez ce paysan et toutes ces questions sont nées dans ma tête à ce moment. Et jusqu'à présent, je traîne encore toutes ces questions.
Mais vous les traitez souvent avec, en grossissant les caractères. Il y a vraiment des types chez Gary comme
Non,
son pipirite,
non, non,
comme,
je ne grossis pas les caractères parce que à chaque fois j'ai l'impression de grossir un caractère, j'ai l'impression que la réalité me dépasse.
Et puis il y a la satire politique aussi qui est très très présente. C'est une œuvre profondément politique.
Bon, même quand on parle de satire chez nous, je me demande dans quelle mesure en Haïti on peut faire de la satire. À chaque fois que j'ai envie d'en faire, j'ai l'impression que la réalité me dépasse. J'ai l'impression d'être constamment...
Donc, c'est-à-dire Albert Buron, Samson Pipirite, c'est les gens de la vie réelle.
Oui, constamment. Et moi, je suis constamment, je pourrais dire, frustré du fait que d'avoir cette impression permanente que ma fiction est totalement en deçà de la réalité. Il y a des choses qui se passent. Franchement, je suis totalement ébahi à chaque fois.
Vous m'avez dit dernièrement dans un mail que ce qui est là, ce n'est pas l'humour, l'humour ne peut rien, etc. C'est l'extrême fatigue. Et c'est quoi comment cette fatigue-là?
Bon, c'est justement parce qu'effectivement, l'humour permet de surfer un petit peu, de rester à la surface, de ne pas s'enfoncer. L'humour permet de respirer un petit peu, mais en fin de compte, on se rend compte, mais à quoi sert l'humour? À un certain moment, c'est une grande fatigue. C'est parfois un grand désespoir, mais ce n'est pas vraiment que je me sente fatigué ou que je me sente désespéré. Je crois qu'il faut constamment essayer de lutter. Et nous sommes quand même très fiers que nous, les écrivains en Haïti, que nous sommes peut-être les porte-étendards de ce qu'il reste encore comme excellence, comme fierté en Haïti. Et ça nous permet vraiment de lutter, ça nous donne quelque chose, ça. Donc voilà.
Est-ce que vous imaginez votre œuvre sans cette réalité chaotique? Ce que je veux dire, il y a un côté paradoxal. C'est-à-dire ce qui nourrit l'œuvre, ce sont ces pulsions de mort.
Bon, on croit toujours que quand on est dans une situation chaotique, ça favorise la création. C'est ce qu'on pense habituellement. Je ne crois pas qu'on ait répondu à cette question. Est-ce que je serais dans un autre lieu, il n'y aurait pas ce chaos? Est-ce que je pourrais toujours écrire? J'ai quand même passé 5 ans à Montréal et pendant que j'étais à Montréal, j'ai écrit une trentaine de nouvelles. Effectivement, dans une autre veine, ce n'était pas vraiment les mêmes nouvelles que j'aurais pu écrire quand j'étais dans le chaos Haïti. Je crois que le chaos n'est pas nécessaire vraiment pour écrire. Cette pulsion de mort, elle n'est pas vraiment nécessaire à la création, mais en même temps, elle produit une certaine œuvre, d'autres créations, d'une autre écriture. D'ailleurs, je crois qu'il y a une écriture pour chaque état d'âme, pour chaque moment. Et ça dépend des lieux et du temps.
Et pour Soro, est-ce que, avant de passer à la lecture, est-ce que tu peux, je dis vous, parce que c'est mon ami, c'est un peu difficile. Donc, est-ce que tu peux nous parler brièvement de Soro?
Eh bien, en fait, comment j'ai écrit Soro, c'est que, bon, bien sûr, j'étais à Port-au-Prince, dans le quartier le plus touché, le Carrefour-Feuille, un quartier populaire, c'est là que j'ai vécu. Et l'un des quartiers qui est le plus touché par le tremblement de terre. Et immédiatement après le tremblement de terre, il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Moi, j'ai tellement vu de souffrance, j'ai tellement vu de mort, j'ai tellement perdu d'amis. Il était très, très. C'était pas possible pour moi vraiment d'écrire, de parler du tremblement de terre. Mais en même temps, j'ai vu tellement de choses qu'à un certain moment, j'ai eu en moi ce besoin de photographier, je pourrais dire, et après coup, tout ce qui s'était passé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré, quelques mois après le tremblement de terre, dans une boutique dans le quartier, une boutique qui était restée debout, j'y allais souvent et je rencontrais des amis. Et j'ai été tellement étonné de voir des gens qui venaient, qui sortaient de leur petit boulot et qui venaient s'asseoir à cette boutique et qui achetaient du Soro. Le Soro, c'est de l'alcool de canne dans lequel on met macéré des feuilles, c'est de l'absinthe à peu près. Et on en consomme tellement et ça m'a tellement interpellé de voir cette consommation de Soro. Et en même temps, j'avais déjà cet inspecteur de police qui carburait constamment au trempé. Et c'est comme ça que... Et puis, bien sûr, il y a cette histoire. C'est une histoire presque vraie. C'est une histoire presque vraie. Et voilà, et puis je suis parti sur l'idée de parler de ce moment. Et moi, ce que j'ai voulu faire surtout, ce qui m'a vraiment frappé, c'était de voir comment cette nuit, parce qu'en fait, l'histoire se déroule au moment du tremblement de terre et les 72 heures qui suivent, c'était de voir comment on pouvait se découvrir dans cette catastrophe. Effectivement, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, mais en même temps, des gens se découvraient. Des gens faisaient preuve d'un courage extraordinaire, des gens qui peut-être n'auraient jamais pensé qu'ils auraient pu réagir de telle manière dans une situation aussi extrême. Et c'est vraiment ce qui m'a interpellé de voir des gens qui réagissaient d'une manière totalement extraordinaire. Et justement, il y a cet épisode que je vais lire. C'est l'histoire de cet homme, de cet inspecteur insular, qui rentre sous des décombres pour sauver un enfant. Et c'est quelque chose que j'ai pratiquement vécu cette nuit du tremblement de terre.
Eh bien, on va suivre avec vous cette lecture.
Il s'éloigna de sa démarche titubante. Personne n'eut pour lui un regard méprisant. Tous les regards, dans la stupeur et la douleur, cherchaient désespérément le chemin de l'envers des choses, un lieu perdu, un lieu rêvé, un paradis raturé déjà par les hurlements des évangélistes. Il marcha, dépassa sa rue, visionnant dans la nuit l'immensité de la catastrophe. Il entendit des cris au lieu où il avait l'habitude de voir une maison de deux étages nouvellement construite. Plusieurs personnes étaient rassemblées avec des torches, des lampes, devant un autre amoncellement de décombres. Le toit de béton craquelé ressemblait à une pieuvre, en serrant les ruines entre ses tentacules. Quelques hommes allongés à terre s'activaient devant ce qui restait, d'une fenêtre grillagée. L'inspecteur s'avança. Une femme lui dit qu'il y avait un bébé encore vivant à l'intérieur quand on entendait ses cris, ce que le policier vérifia effectivement. La mère avait réussi à parler il y a quelques heures, disant qu'elle allait mourir, mais que le bébé qu'elle tenait dans ses mains était vivant. Il s'approcha encore plus. Un homme essayait de se faufiler à l'intérieur par une ouverture. Une entreprise périlleuse en raison de possibles répliques. Les cris de l'enfant se faisaient plus persistants. Le visage de la femme écrasée au-dessus de lui s'imposa à nouveau à son esprit. Il vit une partie du plafond à quelques centimètres de son visage et il se demanda encore comment il avait pu se dégager de ce tombeau. La peur aurait dû le faire fuir à ce moment, mais l'impression d'une dette envers quelqu'un, peut-être envers le destin qui lui avait sauvé la vie, le porta à s'approcher encore plus. Police, hurla-t-il, laissez-moi essayer. Il n'avait même pas vu ce que les sauveteurs s'apprêtaient à faire. Il enleva sa chemise, but d'un trait son seau. Puis réclama une torche électrique, ce qu'on lui donna immédiatement. Il s'allongea dans l'espace dégagé dans les gravats et rampa vers l'ouverture. Les sauveteurs avaient réussi à venir à bout des barreaux de la fenêtre. Le policier était suffisamment maigre pour s'y faufiler. Il éclaira l'intérieur. Il ne restait de la pièce qu'une petite cavité. Il vit des meubles tordus, déchiquetés par le béton, un réfrigérateur éventré. Il y avait un autre espace libre qui permettait de passer sans doute vers ce qui restait de l'autre pièce. Les cris de l'enfant venaient de là, lui dit une voix pressante. Mais n'importe quelle réplique pouvait modifier l'agencement des ruines. Dieu soit loué, Zemmour se glissa à l'intérieur. Il n'était possible de progresser qu'en rampant. Des débris de vitres lui tailladèrent les bras. L'ouverture suivante était encore plus difficile à traverser. Il dut se contorsionner pour pouvoir continuer. La lumière de la torche vacilla, il fallait faire vite. Il était dans une autre pièce, du moins ce qu'il en restait. Probablement une chambre à coucher. Un morceau de plafond avait aplati un berceau. Il découvrit le cadavre d'une femme. Les bras de la morte agrippaient encore le bébé. Comment l'enfant avait-il pu échapper au massacre? Les jambes de la femme disparaissaient sous le béton. L'inspecteur dut déployer tout ce qui lui restait d'énergie pour détacher l'enfant de sa mère. Partir en sens inverse avec un collier humain fut plus difficile. Il parvint à sortir le bébé par l'ouverture, le laissant pratiquement tomber de l'autre côté. C'était le seul moyen de continuer. Les cris de l'enfant augmentèrent. Le passage semblait s'être rétréci. Il crut qu'une réplique qu'il n'avait pas perçue l'avait emmuré. Finalement, des égratignures au torse et aux bras, il passa dans la pièce de l'autre côté. Il rampa en roulant pratiquement le bébé qui hurlait devant lui. La poussière lui obscurcissait la vue. Il était uniquement mu maintenant par son instinct de survie. Quitter ce lieu. Une réplique plus forte secoua les décombres. Il était arrivé devant la fenêtre par où il était entré. Il prit le bébé et le tendit vers des bras avides qui s'empressèrent d'accueillir l'enfant. D'autres mains s'allongèrent vers lui pour le ramener à l'extérieur. Il pleurait, des pleurs de sang, des pleurs de sorrow, des pleurs de terre. Au moment même où on finissait de le dégager, une autre réplique fit s'écrouler définitivement ce qui restait de la demeure. Pour se mettre debout et le rester, il dut s'appuyer sur un homme. Une femme lui remit sa chemise. Les gens lui disaient merci. D'autres croyaient qu'il était un héros, que personne n'aurait pris ce risque. Il continuait à sangloter. Il versait des larmes de sang, des larmes de sorrow, des larmes de terre, des larmes de douleur, d'impuissance et de rage. Merci.
Merci, Gary. Merci. Merci. Yara El Gadban.
Faudrait expliquer.
Et en fait, Yara, il y a un malentendu. Laissez-moi vous expliquer ce malentendu. On va éclaircir la chose. Et dans l'invitation qui est faite sur le blog de la librairie Port de Tête, ils ont mis, vous allez assister à une rencontre avec quatre auteurs haïtiens. Et il se trouve que Yara El Gabdan m'a appelé pour me dire, mais c'est pas 17h en plus, je suis devenue haïtienne. Et puis j'ai dit, mais c'est pas grave, au contraire, c'est un honneur. Donc Yara est notre haïtienne de service. Et on lui dit un grand merci. Mais Yara, encore, c'est encore un malentendu, elle est palestinienne, parce que quand on est en train de travailler, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que Yara est palestinienne et elle parle de la Palestine, c'est dans sa mémoire. C'est une mémoire de l'enfance, mais elle n'a pas vécu ce qu'on peut appeler une enfance, parce qu'elle n'est pas née là-bas. Elle a vécu dans plein de pays, un petit peu partout. Donc, elle a un exil assez long. Donc, ça pose, quand on dit une enfance palestinienne, et sur la quatrième de couverture, quand j'écrivais ça, on se battait un petit peu parce qu'elle dit, bon, Palestine, parce qu'elle est de partout. Elle est vraiment de partout. Et ma première question, c'est-à-dire comment elle vit cet honneur qui lui est fait d'être citoyenne haïtienne aujourd'hui. Est-ce que tu...
L'autre jour, c'est M. Voltaire, je pense.
Oui, Franz Voltaire.
Qui m'avait parlé, il m'avait dit, bon, vous êtes palestinienne, vous savez que... Un grand haïtien qui a introduit et qui a en fait introduit beaucoup de changements et de transformations dans la musique haïtienne était d'origine palestinienne. Et j'ai dit, ah, mais ça ne me surprend pas du tout. Et je crois que dans une autre vie, moi aussi, j'étais haïtienne. Je suis certaine que beaucoup d'haïtiens trouveront des Palestiniens dans leurs racines parce que c'est des peuples qui ont beaucoup, en fait, qui ont un petit peu la même histoire. Et je crois qu'il a fait qu'ils se sont dispersés un peu partout. Alors pour moi, c'est tout à fait, oui, c'est un honneur et je Merci. Le prends avec grand plaisir.
Vous allez recevoir le passeport, mais avant de recevoir le passeport, je dois vous dire que Yara est anthropologue de formation. Donc Yara, elle vit à Londres, donc elle a vécu au Liban un petit peu partout dans le monde et on est très très content d'avoir Yara avec nous, puisque Yara, vraiment, c'est vraiment l'illustration de la diversité ou bien de la diversalité des multiples identités qu'un être humain peut assumer. Donc, on revient à l'enfance palestinienne. Yara, est-ce que tu peux nous dire clairement ce que c'est une enfance palestinienne? Parce que sur le lieu, la question du territoire, c'est vraiment un problème. Et dans ce livre-là, quand on lit ce livre, on voit tellement de nourriture, tellement de poésie. Il y a la douleur, mais il y a une vie, il y a un désir de vie qui fait qu'on dit, mais ce qu'on voit à la télévision, quand on nous dit Palestine, c'est pas du tout ça. Il y a une mémoire du pays qui est tellement vive. Donc, comment peut-on imaginer une enfance palestinienne?
Mais c'est drôle, parce que tantôt, j'écoutais Gary qui parlait du choc après avoir vécu dans une enfance très protégée. Et je crois que pour beaucoup de Palestiniens, ce choc-là entre, disons, le rêve et le cauchemar, c'est un vécu quotidien. Donc, être Palestinien, c'est beaucoup faire le voyage à tous les jours entre le rêve et le cauchemar, entre le désespoir et entre vraiment un sentiment de grand espoir. Et je crois le fait que le territoire ne soit pas si présent, c'est libérateur d'une certaine manière. Parce que moi, j'ai toujours dit, moi, je peux imaginer la Palestine comme je le veux. Il n'y a personne qui peut me contredire. Alors,
c'est-à-dire que je peux mentir.
Non, il n'y a personne qui peut me contredire. Qui est-ce qui va me dire que la Palestine n'est pas belle?
Mais ce qui est vrai, c'est le parti pris. Il y a le manque de territoire, mais il y a quelque chose de, je dirais, d'ontologique. Il y a quelque chose dans les portraits. Il y a un art du portrait dans ce livre. La grand-mère, la mère. En fait, il y a vraiment il y a tellement de gens, le grand-père, etc., avec la grenade, cette grand-mère. Donc, je pense que le territoire est devenu le visage, les visages familiers, les visages des gens qu'on aime.
Oui, c'est une bonne façon d'expliquer ça. Le pays est dans les êtres, dans les humains, en tout cas dans mon cas. Moi, j'ai seulement visité la Palestine très, très, très tard. Mais je pouvais décrire la maison de ma grand-mère, je pouvais décrire la petite terre de mon grand-père, parce que ce sont des choses qui ont été transmises. Et ils n'ont pas été transmises, elles n'ont pas été transmises un peu comme un livre d'histoire. Elles sont transmises indirectement, à travers les blagues, à travers les chants, à travers la cuisine. Donc, il n'y a personne qui est venu me dire, voilà, ça c'est le mets traditionnel de la Palestine. Sauf que je sais que moi, je mangeais le za'atar à chaque matin. Et donc, il n'y a personne qui a besoin de me dire que ça, c'est un mets traditionnel aux Palestiniens. Ça fait partie de mon vécu quotidien. Et je crois que c'est beaucoup plus fort comme ça et beaucoup plus... c'est un enracinement qui n'a pas... qui évite les pièges des racines. Les racines, dès que les racines sont creusées, bon, c'est difficile de bouger. Alors que les racines, quand on les imagine et quand on les rêve, elles peuvent aussi bouger. Donc, et on a la fonction des racines, mais sans les limites. Et c'est une chose qui m'a été transmise et que j'essaie de transmettre aussi à mes enfants.
Ce qui est un petit peu, ce qui est important pour moi dans ce livre, c'est par rapport à cette grande souffrance d'un certain nombre de personnages. Et il y a aussi cette grande poésie dans la famille même, dans cette histoire familiale. Il y a beaucoup de lumière, beaucoup de vie, beaucoup de poésie et de chansons. Comment ça peut être sur le même plan? Et j'ai l'impression que c'est sur le même plan. Les gens sont morts et puis on les chante. Les gens sont... Vous voyez, et à chaque page, il y a vraiment... Je n'ai jamais lu un livre où il y a autant de cuisine. Et je pense que si vous avez faim, c'est un livre à lire. Comment est-ce qu'on peut... Et en même temps, vous voyez qu'il y a telle personne qui est morte, il y a telle bombe, il y a telle chose, etc. Donc, c'est peut-être une manière de... Face à l'extrême, il y a comme une chanson, il y a un poème, il y a la relation au père, qui est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tellement de transmission aussi.
Oui, mais si je vais parler un peu comme une anthropologue... quand on travaille dans des sociétés qui ont vécu une grande violence, on découvre que dans ces mêmes sociétés-là, il y a une création incroyable. Et donc, c'est ça qui est incroyable, ça montre aussi la complexité des êtres humains. On dirait que la violence ne peut pas exister sans aussi la création et la créativité et vice-versa. Il y en a un qui toujours répond à l'autre, qui est en dialogue avec l'autre et qui vient aussi canceller, qui vient annuler l'autre.
Là, vous êtes parfaitement haïtienne. Un gari.
Et je dis comment ça peut exister sur le même plan. Moi, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est normal. On vit toujours le bonheur et le malheur en même temps. Je ne connais pas des gens qui vivent le bonheur sans le malheur. Alors, ça fait partie de la vie. Peut-être dans le cas palestinien, c'est encore plus clair à cause de l'extrémité. Mais je ne crois pas que c'est unique aux Palestiniens. Non.
On va écouter la haïtienne palestinienne pour voir si elle mérite son passeport.
Alors, Rodney a parlé de portraits. Alors, c'est une petite fille qui raconte un peu son histoire, son enfance. Et les extraits que je voudrais vous lire, ce sont des portraits des femmes dans sa vie. Donc, de sa tante et de sa grand-mère et de sa mère. Je vais commencer par la maman. Voilà. En cuisinant, maman chante. La radiocassette remplit la maison de musique à longueur de journée. Elle fredonne avec ses chanteurs préférés, Fayrouz, Oum Kulthoum, Abdelhalim et Marcel Khalifa, la poésie de Mahmoud Darwish et de Nizar Qabbani. Un grand orchestre résonnant derrière eux, ou bien accompagné simplement du luth. C'est pourquoi je me souviens de la couleur miellée des yeux de Rita, la fille juive dont Darwish était amoureux en Palestine, et du destin que la voyante de Qabbani a vu lui dans le café d'Abdelhalim, lorsqu'il lui a demandé le nom de sa bien-aimée. Tata, c'est un monde terrifiant, et ta vie n'est que voyage et guerre. Tu aimeras de multiples fois, et tu mourras de multiples fois. Tu adoreras toutes les femmes de la terre, et tu reviendras un roi vaincu. Si elle n'avait pas eu le souffle étranglé par l'asthme, la voix de maman aurait porté plus loin que les présages de la voyante. Elle aurait voyagé là où mon oiseau s'envole pour fuir l'hiver, aurait ramené son chant à Dubaï, bien avant le retour du printemps. Qabbani lui aurait composé des poèmes seulement pour les entendre de ses lèvres. Je me demande si elle ne fait pas le ménage pour le seul plaisir de chanter. En arrosant les plantes, elle chuchote une berceuse pour qu'elle pousse plus vite. En rangeant la lessive, chaque pli a un rythme. En rinçant la vaisselle, l'eau lui fait onduler les phrases en un long vibrato. Donc ça, c'est la maman de Yuryur.
C'est très beau, hein?
J'ai mentionné Dubaï parce que, juste pour situer un peu l'histoire, elle se passe entre Dubaï et le camp de réfugiés au Liban. Donc, c'est Yuryur qui vit avec ses parents à Dubaï et qui passe les étés dans le camp de réfugiés où vivent en fait toute sa famille. Et l'autre extrait, ça, c'est la grand-mère de Yuryur. 115, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Alors, grand-mère en arabe, on dit Teta. Teta est belle comme son nom. Pas jolie, Jamile. Pas mignonne, Amoura. Pas charmante, Jazebe. Elle est tout simplement Helwe. La beauté tout sucre, tout miel. Helwe, comme le dessert trempé dans le sirop aux heures du jeûne, pour mieux le savourer au coucher du soleil. Helwe, comme une voix ondulant sur la corde d'une vielle bédouine. Helwe, comme la brise du nord qui apaise l'humidité accablante de Haïfa. Avant les mèches décolorées par le temps, Teta vantait les cheveux noirs des nuits sombres de la saison des pluies, le noir d'une peau qui s'est enivrée d'avoir trop bu le soleil, le noir de l'Afrique saluant l'Asie par-delà la mer Rouge. Avant la balle qui a traversé son épaule, avant les rides, avant les veines enflées par la fatigue, avant les os brisés sur les escaliers durant les jours sans électricité. Elle habitait un corps, couleur d'ivoire, blanchi par mille et une amours éphémères, passions passagères, voyageurs errants, couples métissés, croisés sanglants, culture et histoire et fantasmes naissants d'amour et de guerre des siècles durant. Avant l'usure de la vie, Teta possédait une beauté dure et paradoxale, profonde mais contrariée, majestueuse mais fanée, une beauté palestinienne. Les traits sévères adoucis par les tatouages qui ornent son front et son menton. La posture élancée, tenue par un caractère d'acier, cultivée comme la terre, par l'amertume des orangers et la persévérance des oliviers. Avant le camp de réfugiés, Teta était Helwe et Jabbara, belle et invincible, faite pour affronter le vent, les tempêtes, les montagnes, le diable lui-même, s'il le voulait. Alors ça, c'est Ça s'est éteint. Attendez. Vous pouvez applaudir après. Alors, le dernier portrait, c'est celui de la tante de Yuryur qui s'appelle Mariam. Mariam est célèbre dans tout le camp pour sa peau douce et luisante. Pas un seul poil déplacé sur sa silhouette. Les jambes brillent dans le soleil comme l'or d'un dinar fraîchement frappé. Les sourcils tracent à l'encre noire les chancrures des yeux. Les cheveux jouent à cache-cache avec les mèches argentées. Ils n'ont rien du teint jaunâtre de la vieillesse, ils ont tout de la blancheur des étoiles. Dans la cinquantaine, les joues, le cou et le menton, sur lesquels la peau s'étend sans le moindre excès, n'ont rien cédé au passage du temps. « Tante Mariam, quel est ton secret ?» lui demandent souvent les jeunes femmes du camp. On raconte qu'enfant, Helwe, la mère de Mariam, soucieuse de léguer à sa fille aînée sa beauté, l'a baignée dans le sang d'une chauve-souris. Une fois absorbée par la peau, le sang magique l'enrobe d'un vernis qui lui donne une texture lumineuse et souple. Tellement souple que les rides disparaissent dès qu'elles apparaissent et jamais ne poussent les poils.
On comprend
secret
maintenant.
Beauté, hein? Les chauves-souris habitent les grottes des collines. Où en trouver une dans la jungle urbaine de Beyrouth, au pire dans le camp? Déracinées de leur terre, les femmes ont dû laisser derrière elles plus que les repas qui mijotaient sur le feu, plus que les robes à moitié lavées. Exilées, elles ont dû abandonner une part de leur féminité dans les cavernes de la Galilée. Mariam serait immortelle si la tristesse ne lui avait pas brisé le cœur. Le cancer du sein s'est infiltré là où le deuil a creusé un grand vide. Elle a offert au monde 5 filles d'une beauté inouïe. Mais c'est dans les bras de son fils qu'elle trouvera le repos. Voilà.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Et le dernier, pas le moindre, c'est Michel Soukart. Donc Michel Soukart, comme on a dit tantôt, est historien et il est journaliste, il est romancier. Et Michel a la particularité de suivre jour après jour l'histoire haïtienne, l'histoire du pays. Et Michel est une espèce d'archive ambulante. À chaque fois, j'ai une question qu'on me pose, j'ai dit bon, je vais voir avec Michel. Et puis j'envoie un mail. Et tout de suite après, en fait, c'est un savant pour moi. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est quand Michel passe de l'histoire au roman. Parce qu'en même temps, on se dit, bon, est-ce que c'est vraiment, et c'est toujours la question de Gary qui est une question limite, est-ce qu'on est dans la chronique des faits? Puisqu'en fait, la réalité est tellement riche. La réalité secrète elle-même, dans la réalité se trouve la propre fiction. Donc il y a une espèce d'auto-représentation de la réalité qui fait qu'il y a dans la réalité sa propre mise en abîme. Donc on cherche dans la réalité la fiction. Donc Michel est très précieux pour nous, puisque Michel fait, je dirais, le trait entre plusieurs générations, entre plusieurs siècles même, parce que Michel, quand on lui dit tel président du 19e siècle, il connaît tel événement, tel fait, il te raconte ça comme si c'était en face, c'était la rue d'après, etc. Et il te parle de 1867 comme si c'était 1995. Donc, il y a quelque chose de fascinant dans ce télescopage de temps et de lieu, et aussi cette passion de l'histoire, et cette passion aussi de changer les choses. Je commencerai par dire à Michel d'où est venue cette passion. Parce qu'en même temps, je parlais de Yara en termes de trafic d'identité, mais je pense que j'ai entendu dire que Michel est peut-être le plus palestinien, ou bien le plus arabe avec le nom Soukart, des Haïtiens. Vous voyez, on est complètement dans des trafics d'identité là. Donc Michel, comment est venue cette passion?
Bon, tout d'abord, je voudrais Cette passion est venue d'abord de l'histoire de ma propre famille, de mes deux racines. Tout d'abord, prenons du côté arabe. Mon grand-père, il est venu de cette région qu'on appelle le Liban et la Palestine. C'était de bonhomme qui avait été systématiquement traqué par la police d'une grande puissance à l'époque, qui était la police turque. Traqué comme opposant, traqué comme chrétien maronite. Et dans ma famille, on conserve jusqu'à présent comme une relique, une photo. Parce que quand la police turque est venue l'arrêter, parce qu'à l'époque, quand les Turcs pénétraient quelque part dans le Liban, en Palestine, la première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils décapitaient tous les hommes. Et ils faisaient une pyramide de têtes sur une place publique et ils prenaient toutes les femmes pour eux. Alors quand on a voulu lui dire que la police était pratiquement à sa porte, il a juste eu le temps de déchirer une photo de sa mère, qu'il a séparée avec un frère, mais il faisait tellement vite qu'il ne s'est pas rendu compte que lui, il avait pris la jupe de la mère. Il allait perdre à jamais contact avec sa famille. Et c'est ainsi qu'il il a d'abord pris un bateau, clandestinement, qu'il a déposé en France, de la France. Les autorités françaises lui ont fait comprendre qu'il ne pouvait pas rester ici, parce que les Turcs le réclamaient. Et ensuite, il est passé au Mexique. Du Mexique, il est passé à Cuba. De Cuba, il est passé en Haïti et finalement République dominicaine. Mais c'est un bonhomme qui était un intellectuel. C'était le très bon ami de Khalil Gibran, qui est un grand poète, un grand peintre mondialement connu. Et je possède chez moi jusqu'à présent des lettres manuscrites de Khalil Gibran à mon grand-père, où il explique sa conception de l'art, sa conception de la poésie, parce qu'il fut à la fois peintre, philosophe et poète. Donc d'abord, et cet homme, quand il est arrivé en Haïti, il est tombé amoureux de ce pays. Et sur son lit de mort, il a dit à mon père, à quelque chose l'exil dans la douleur a été bon, parce que j'ai fait connaissance avec ce peuple. Ce peuple bon comme le pain, qui m'a accueilli tout comme il aurait accueilli son propre fils. Et il a dit à mon père avant de mourir, tu dois me faire un serment, c'est que ni toi ni ta descendance, jamais vous ne ferez de mal à ce peuple. Et quand il parlait de ce peuple, il parlait surtout des gens des masses populaires. Il disait, ces gens-là sont capables de séparer avec vous une banane quand ils ont une seule banane, tandis que ceux qui se disent les élites, ils préféraient vous voir crever. Et pendant toute sa vie en Haïti, il a connu Antenor Firmin, qui l'a soutenu. Il a même participé à la guerre civile du Limbé, que je raconte dans un autre roman qui s'appelle L'âge du tigre. Il a pris l'exil quand Firmin a perdu. Il a failli être fusillé par le général Charles Oscar au Cap-Haïtien. Il est revenu, il a soutenu Rosalvo Bobo contre les Américains. Finalement, il est mort en 1943. Ça, c'est la première trace, je dirais, de l'influence de l'histoire dans ma propre famille. La deuxième influence vient de ma mère. De son côté, il y a une espèce d'arrière-arrière-grand-père qui, au milieu du 19e siècle, était un colonisé guadeloupéen, colonisé par la France, et qui a pris les armes contre les Français. Les Français l'ont arrêté, l'ont torturé, lui ont dit « Nous n'allons pas vous tuer, mais nous allons vous marquer à jamais. » Ils ont exécuté devant lui sa propre femme. Ils lui ont dit « Vous allez laisser ce pays et ne jamais revenir. » Il lui a demandé, il vous reste trois filles, si vous voulez que vos filles grandissent putain, vous n'avez qu'à rester en Guadeloupe. Où voulez-vous aller? Il a répondu, il n'y a qu'une seule terre où l'homme noir peut être libre, c'est Haïti. Envoyez-moi là. Et c'est ainsi qu'il est arrivé en Haïti, aux environs des années 1850-1860. Donc toutes ces histoires-là, j'ai grandi avec. En un mot, j'ai été, comme je dirais, on m'a plongé pas dans un berceau, mais dans un creuset historique, du côté des deux branches de ma famille. Et à ce moment-là, je me suis donc intéressé à cela, encouragé aussi par mon père. Et c'est ainsi qu'en posant des questions, mais des questions à n'en plus finir, en cherchant les réponses, en participant à beaucoup de choses aussi, qui n'étaient pas toujours agréables, et très dangereuse, ce roman, l'idée de ce roman m'est venue. Comment comprendre les mécanismes du pouvoir, de l'État, de sa raison, de ses motifs inavouables? En travaillant sur la période de Geffrard, je me suis posé une question. Cora Geffrard, une jeune fille de 23 ans, fraîchement mariée, enceinte, qu'on assassine. Le gouvernement avance une thèse officielle. Cette jeune femme a été tuée par un homme qui était ministre de l'Intérieur, qui faisait de la politique depuis combien de temps, pour prendre le pouvoir. Ça m'a paru absurde. Comment un homme peut-il penser prendre le pouvoir en tuant la fille du président? D'ailleurs, il y a une colère populaire immédiatement contre lui, le facteur émotionnel. Et je me suis mis à chercher. Et j'ai trouvé que cette histoire avait été totalement escamotée. Oui, Cora Geffrard a été assassinée, mais ce n'était certainement pas par des conspirateurs. Son propre père en a profité pour régler ses comptes politiques. Il a caché le motif par raison d'État. Parce que, comme tout homme d'État, surtout quand il ne dirige pas un État où il y a des institutions qui jouent le rôle de contre-pouvoir, il est déchiré parce qu'il est habité par deux corps. Tout d'abord, son corps personnel, avec toutes ses pulsions, ses instincts, ses désirs. Et puis le corps de l'État qui le représente. Et l'un lutte avec l'autre. L'un peut être victime de l'autre. Et c'est ce qui va arriver. Et comment maintenant je raconte les faits? En parlant un jour, justement j'ai posé la question à mon père qui s'intéressait beaucoup à l'histoire, puisque lui aussi il a été marqué par tout ça. Il m'a dit, oui c'est vrai, tu avais bien vu, ce n'était pas la vraie raison. Et puis il va dans ses archives, et puis il tire un document, et puis il me dit, lis ça. D'où venait ce document? Il y a un bonhomme qui a existé, qui s'appelait Monsieur Prosper Elie, que je compte dans ce livre sous le nom d'Elie Auguste, qui était un ami de Geffrard, un conseiller spécial politiquement. Ce bonhomme, avant de mourir, a écrit la vraie histoire. Voici qui avait tué quoi et pourquoi. Et pourquoi ce crime a été caché. Pourquoi 16 accusés ont été faussement accusés et fusillés. Et ce document, il l'a laissé à son fils Émile, qu'il a transmis lui-même à son fils Louis-Élie, qui était un historien et qui était un très bon ami de mon père. Et mon père m'a dit, voici la question. Maintenant, que pouvais-je en faire? Un livre d'histoire? Non. Mais pour moi, ça faisait un sujet fabuleux de roman. Haïti, c'est un pays où, sans effort, vous trouvez des situations, des personnages. C'est un pays qui a besoin de Shakespeare, d'un Échille ou de Garcia Marquez. C'est un pays inépuisable. Le fait que je t'ai raconté hier, enfin cet après-midi, je rencontre un bonhomme dans la rue, je le vois pâle, je lui dis, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben mon chéri, je suis malade. Ah ben va chez un médecin. Oh non, pas la peine. Pourquoi tu vas chez un médecin? Mon cher, hier soir, on est venu me donner une piqûre. Qui ça? En rêve? Oui, on est venu me donner une piqûre. On a commencé à me donner la piqûre. Et puis, il y a un sale chien derrière ma fenêtre qui a aboyé. Il a contrarié la piqûre. Mais on va revenir. Et le bonhomme vous dit ça de la façon la plus sérieuse. C'est vous qui ne devez pas être choqué. C'est un pays extrêmement riche en termes de thèmes, en termes de sujets, en termes de personnages. Si je devais vivre 100 ans, je n'aurais pas assez de temps pour rédiger tout ce que j'ai appris dans l'histoire de ce pays en observant cette société pour les mettre soit dans un roman, soit en scène, ou bien encore, si on a les moyens, dans un film de cinéma. C'est inépuisable. Alors, moi, je me suis donné donc un objectif. À partir de Cora Geffrard, mettre dans des romans, pratiquement, à partir d'anecdotes, de faits bien précis, à des moments clés, des carrefours de notre vie de peuple, restituer en quelque sorte des moments importants de l'histoire de ce peuple. Comment comprendre qu'il a pu partir de la géhenne de l'esclavage, rentrer dans l'histoire de l'humanité comme la seule révolution à la fois antiraciste, anticolonialiste, anti-esclavagiste, monter au pinacle et après connaître cette descente aux enfers. Si jamais on avait divorcé de l'enfer. Comment a-t-on vécu tout cela? Et comment est-ce qu'on continue à le vivre chaque jour? Donc pour moi, c'est la tâche que je me suis donnée. Si je vis jusqu'à 100 ans, 150 ans, vous devrez lire 50 romans que j'aurai pu.
On va commencer par t'écouter.
Alors,
si on va les lire.
Alors,
donnez-nous la preuve.
La première chose que j'ai faite, c'est que, bien sûr, je ne suis pas le premier à le faire, c'est évident. Mais quand on vit dans un pays comme Haïti, Haïti n'a pas le monopole. Dans la Caraïbe, en Amérique latine, en Afrique, vous voyez ça. C'est le pays où il n'y a pas d'électricité tellement. La télévision, ça fonctionne un peu. Les cinémas sont en voie de disparition. Mais il y a toujours le fait qu'il y a des gens qui s'assiedent sur les galeries. Et puis, comme on dit, qu'a belle audience. Ça veut dire qu'il raconte la vie de tous les jours, la vie d'aujourd'hui, la vie passée, ce qu'ils ont connu. On a vu ça avec Justin Lérisson, de la famille des Petites Cailles. On a vu ça avec Georges Anglade, de qui on parle. Raconter les choses. Ce n'est pas une affaire seulement de dire des contes. Non, les contes, c'est purement imaginaire. Mais des gens que vous rencontrez qu'à un certain âge et qui vous disent « Tiens, je vais vous expliquer où on est. Je vais vous expliquer ce qui est passé. » Et puis qui vous raconte des choses. Alors, je me suis dit, ce personnage, le bon ami de Geoffroy, je vais le faire parler. Lui qui a laissé ce document, que j'ai pu lire. Et c'est pourquoi je commence le roman ici. Cette nuit-là, il guettait le chef de l'État pour l'assassiner. La voix chevrotante d'Élie Auguste se tut et sa pensée s'engagea dans une route de silence. Il se demandait sans doute encore s'il devait lever le voile sur les causes et les acteurs du drame qui secoua la vie de ce peuple encore dans les langes en ce temps-là. Ses paupières se plissaient au passage de la fumée de sa pipe, dont l'effluve épicée chassait de la pièce les odeurs venues de la rue. Le crépuscule tombait en même temps que des nuages, précurseurs d'orages tropicales, s'amoncelaient, éclipsant toute velléité de lune et d'étoiles. C'était un soir. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ses cheveux me parurent plus blancs que d'habitude et son front brillait à la clarté de la lampe à huile. Il transpirait. Ma présence lui pesait. Il se questionnait probablement sur l'utilisation de son témoignage. Devait-il se résoudre à sceller à jamais dans son tombeau cette vérité dont lui seul, le dernier survivant des hommes du président, détenait la clé? Pouvait-il se taire et glisser dans le néant en condamnant la postérité à l'ignorance et au mensonge? Quel honneur serait éclaboussé? Quelle vie détruite? Les dépouilles des protagonistes de l'affaire ne se confondent-elles pas depuis longtemps avec la poussière? Les hommes sont de malheureuses créatures, et pour s'élever au-dessus de la condition ordinaire, ils paient le prix fort, dit-il. S'était-il enfin résolu à se confier? Depuis des années, je le tâtais, le tentais, reculais, avançais à pas feutrés, épiais les plis de ses lèvres, les mouvements de ses sourcils, au moins dénoncé du nom du président. Jusqu'à cet instant, où sans qu'il me sente approcher, à brûle-pourpoint, je lui demandais « Qui voulait ce soir-là assassiner le président ?» Pas un battement de ses cils, pas une goutte de sueur sur ses doigts. Seulement le sang-froid de la bête tapie pour dissimuler sa présence, pour laisser passer le chasseur, guetter ses pas. Ma question avait fondu comme la glace dans mon verre d'orangeade. Le temps a filé, Auguste, pensais-je. Il te bouscule et ta conscience te tourmente. Il te reste une ultime vanité, celle d'être le dernier à savoir. Je sentais que sa mémoire allait déployer ses ailes et se prendre à mes filets. C'était à mon tour de retenir ma respiration, de compter les battements de mon cœur. Le chasseur se blottit. La bête consent à se glisser hors de sa tanière. Je ne bouge pas, Auguste, je ne parle pas. Je t'attends, tout oui. Alors vous écouterez ce qu'il a dit.
Ben, merci, merci beaucoup. Je finis en disant merci à cette belle librairie qui nous a accueillis et puis qui nous a fait une table. J'espère que cette table va rester. Et puis va rester cette vitrine qu'on a fait à Mémoire d'Encrier. Ça va rester pour 2017. Et puis je suis ben, vraiment, vraiment merci de tout cœur. Merci à Mackenzie Orcel, les latrines. Et je pense qu'on a compris le message. Et puis votre mère est aussi avec nous. Et vous lui direz qu'on l'aime beaucoup. Et puis, on va pas chez le banquier, mais on lui dit simplement qu'on l'aime. Des fois, ça vaut mieux que... On comprend. On a compris. Mais on lui dit qu'on l'aime. Dans ce livre bancaire, ça va écrire qu'on l'aime. Point. Barre. D'accord? Et puis, on laisse de côté les latrines, on avance avec Soro de Gary Victor, mais la prochaine fois, on va boire du Soro, pas du vin. D'accord? Tu nous le promets. D'accord? Donc, Soro de Gary Victor, et puis cette enfance palestinienne, haïtiano-palestinienne désormais, l'homme de l'Olivier de Yara El Gadban. Et ensuite, courage et foi, Michel nous promet... qu'il vivra jusqu'à 150 ans. Nous aussi, ses lecteurs, nous devons vivre pour le suivre. Et puis donc, ouais, donc ça me rappelle Garcia Marquez, donc vivre pour le raconter. Donc merci bien à vous et Mémoire d'un crier, on est content. Merci.